Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous poursuivons et nous terminons d'ailleurs notre série Matière à penser intitulée Les grandes figures de la médecine et de la science. Et aujourd'hui, pour terminer donc cette série, il sera question de l'écrivain surréaliste André Breton. Effectivement, non seulement il est connu dans le domaine de l'art, mais il est connu aussi pour son passage en médecine, en blouse blanche, quelque peu militarisée. Nous allons en discuter précisément avec Gilbert Guiraud, qui est lui aussi médecin et amateur d'art, puisqu'il est d'une part rhumatologue, radiologue, et qu'il a écrit ce livre « André Breton, médecin malgré lui ». Donc ça renvoie, à Molière et autres approches médicales. Donc André Breton, médecin malgré lui, publié aux éditions L'Harmattan. Merci d'être là et j'aimerais vous présenter en un mot. C'est d'une part que vous étiez intéressé donc par la médecine et surtout la rhumato, mais aussi par l'art et vous avez fait des recherches en archéologie, en peinture, le titanosaure. Vous avez lié la médecine et la peinture, on va le voir avec notre invité André Breton, mais qui m'a intéressé, c'est que vous avez cherché, par exemple, chez Arthur Rimbaud, de quoi était-il mort. Donc, vous avez trouvé que c'était un ostéosarcome. Renoir et sa polyarthrite, la sclérodermie de Paul Klee. Enfin, tout un tas de choses qui montrent que, effectivement, la médecine dans la vie quotidienne, ou les maladies plutôt, interviennent, et ça n'a pas empêché ces hommes-là de créer, mais ça a peut-être un peu influencé aussi leur mode de vie. Alors, dans cette approche générale, je dois dire que j'adore cette édition, L'Harmattan, qui fait appel à un peu à l'histoire de la médecine. Et je sais que vous faites partie de la société aussi d'histoire de la médecine. Vous avez une préface de Xavier Riault ici, qui développe une collection. Alors, qu'est-ce qui vous attire, d'une part, d'une façon générale, dans cette histoire de la médecine, et comment vit la société l'histoire de la médecine ?
Alors, l'intérêt que je porte toujours donc à l'histoire de la médecine, au fond, est une longue histoire personnelle. J'ai commencé il y a pas mal d'années avec d'autres amis à m'intéresser à l'acupuncture. Puis, lorsque nous avons abandonné ce champ de recherche et de pratique, nous sommes tout de suite intéressés à l'histoire. L'histoire d'abord de la médecine chinoise traditionnelle et ensuite de l'histoire de la médecine en général. Et ce qui nous a amené à organiser à quelques-uns le CEHM, le Centre d'études d'histoire de la médecine de Toulouse. Et c'est dans ce cadre-là...
Tiens, on a reconnu avec votre accent que vous étiez de là-bas. Hein.
Oui. oui, ça, c'est difficile de cacher.
Mais allez-y, donc on est dans l'ensemble d'histoire.
C'est l'origine territoriale. On parle beaucoup actuellement de territoire, et puis l'Occitanie est un territoire tout à fait particulier, tout à fait original, et qui a beaucoup de particularismes, en particulier l'accent. Mais ce n'est pas le seul comme particularisme. Donc, c'est dans le cadre de ce centre d'études que nous avons commencé à organiser des conférences et qu'une année, et nous avons décidé d'organiser une série de conférences sur les relations qu'a entretenu la médecine, l'histoire médecine, avec l'histoire littéraire. Et comme j'avais eu l'occasion de rencontrer Breton, non pas physiquement, mais de le rencontrer dans le cadre et de son village, et Lautoit, village qui est considéré comme le plus beau village du monde, Saint-Cyr-la-Popie, et que je savais qu'il avait entretenu quelques relations avec la médecine, sans savoir très bien lesquelles, que je me suis pensé donc sur cette histoire-là. Histoire tout à fait particulière et tout à fait intéressante, qui donne, au fond du personnage, une image assez inhabituelle.
Ben oui, c'est inhabituel, parce que c'est vrai qu'on connaît Breton par ses écrits poétiques et son surréalisme et ses manifestes, etc., dont on va parler un petit peu, mais pas tellement par son passage dans le monde médical. Alors, déjà, peut-être pour dire qu'il va vivre 70 ans, cet homme-là, et que, dès le début, il est en lien avec une autre sphère que la médecine, c'est-à-dire avec la littérature, la poésie et tout ça. Dès qu'il est au lycée Chaptal, Il va d'abord se lier d'amitié avec Théodore Frankel, et qui lui aussi va faire médecine, hein, médecin et écrivain. D'ailleurs, il y a aussi non seulement la Société d'Histoire de la Médecine, mais aussi les écrivains médecins, hein, oui, un autre cercle. Voilà. Bon, voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, ils vont d'ailleurs beaucoup échanger entre eux, avec d'autres qui vont se joindre. Et il va un peu sur l'instigation de ses parents, c'est pour ça que vous dites un peu malgré lui, devoir s'avancer vers la médecine. Alors comment ça se passe ?
Il est né, dans l'Orne, à Tinchebré, mais assez vite, son papa s'est installé, a été nommé directeur d'une petite cristallerie à Pantin, et donc il a vécu toute son enfance, son adolescence à Pantin. Et il a fait ses études, comme vous le rappeliez, au lycée Chaptal, et entre 1907 et 1913. Et il a passé son baccalauréat en 1913, au lycée Chaptal. Et à ce moment-là, bien sûr, il finit ses études, il avait fait d'ailleurs la philosophie, donc c'est posé pour lui et la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant, hein? Je vais même le citer, j'ai vite compris, parce que son papa et sa maman, surtout sa maman, voulaient qu'il rentre en classe préparatoire pour présenter le concours d'entrée à Polytechnique ou à l'école centrale. Et lui, donc, dit, j'ai vite compris que cette voie m'était fermée, comme au terme des études secondaires s'impose la nécessité d'un choix, j'ai opté pour la médecine. Et il ajoute, sans très bien savoir si les disciplines qu'elle suppose pouvaient cadrer avec le tréfonds de mon être. Je pensais aussi que la profession médicale était celle qui tolérait le mieux auprès d'elle l'exercice d'autres activités de l'esprit. Personnellement, je remercie pourtant d'avoir reconnu que c'était une profession tout à fait particulière de ce point de vue-là. Et donc, il s'inscrit en 1913 à la faculté des sciences pour passer le PSN, et le physique, et chimie,
la propédeutique.
Et il est reçu, et en 1914, il s'inscrit à la faculté de médecine de Paris. Mais au milieu de cette première année de médecine, en 1915, le 15 février, pas de chance. Il est déclaré bon pour le service. Nous sommes en pleine guerre, la Première Guerre mondiale, et donc il doit partir. Et comme il était étudiant en médecine, tout son cursus militaire de 1914 à 1920 va se passer dans le milieu médical.
Médical et militaire.
À Nantes, et il est envoyé comme infirmier militaire, et le matin il fait fonction de médecin auxiliaire dans le service de chirurgie, et l'après-midi, déjà, il est interne au centre neurologique.
Oui, ça va vite, il va avoir une promotion.
Ça va très vite, mais vous savez, dans l'armée, la fonction prime de garde.
Voilà, tout à fait.
Et on utilise vos fonctions, d'abord, ce que vous savez faire.
Ce que je trouve remarquable, c'est que déjà au lycée, il participe au journal du lycée, hein, et ça me rappelle ma propre expérience avec Serge Julie dans le lycée Turgot des années 60. Voilà, ça commence comme ça, les gens ils commencent tôt à écrire. Et on va le mettre en contact par l'intermédiaire de Jean Royer, je crois, avec Paul Valéry.
Paul Valéry.
Donc il va en même temps suivre ce que vous dites, c'est-à-dire cette militarisation médicale ou cette médecine militarisée plutôt. Et il va en même temps quand même tisser des liens déjà avec l'intelligentsia
de
l'époque. Hein,
de tirer des liens avec d'abord Paul Valéry. Il va à Nantes d'ailleurs sur les conseils de Paul Valéry, rentrer en contact avec le docteur Bougnot, lui aussi, et qui a été mobilisé. Et il se trouve que le docteur Bougnot, c'est le gendre de Stéphane Mallarmé, dont il a l'occasion ce médecin de parler de Stéphane Mallarmé. Et c'est vrai que déjà, il a l'ambition de rencontrer Apollinaire, qui rentrera quelques mois plus tard. Déjà, la poésie est beaucoup plus importante chez lui que toute autre chose.
Et alors, ce qui est d'ailleurs dans ces rencontres, c'est au Val-de-Grâce, je crois, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, qu'il va rencontrer un peu plus tard Aragon.
Louis Aragon, voilà. Ouais. Et qui lui aussi, d'ailleurs, a le même parcours.
Médecin.
Il est aussi
écrivain, surtout.
En première année, il a été lui aussi appelé sur les drapeaux en première année de médecine.
Donc,
mais ce qui a été, au fond, fondamental pour lui et pour la suite des événements, c'est qu'en 1916, il va être affecté à sa demande au centre neuropsychiatrique de Saint-Dizier.
Oui, là, il est. Ça. Voilà, c'est ça le point fort.
Ça, c'est le point
fort. En
fin
de compte, de son parcours que vous racontez donc, dans ce livre, publié par l'Harmattan, Gilbert Guiraud, sur André Breton, médecin malgré lui, que je conseille à mes lecteurs, c'est que il a vraiment une attirance vers ce qui produit de la pensée.
Voilà.
C'est-à-dire, et son côté normal, normatif, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, ce qui est extra-normal, c'est-à-dire le délire, les folies, les associations, tout ça, et ça va être la base.
Ça va être la base.
Hein, de son travail littéraire, d'ailleurs. Hein.
Et alors, à ce centre, donc, neuropsychiatrique, on y trouvait surtout les évacués du front pour trouble mentaux, et d'autres, par des délinquants, et délinquants entre guillemets, en prévention de conseil de guerre, c'est-à-dire tous ces militaires
qui ne pouvaient plus et qui voulaient être réformés, quoi.
Voilà, et qui avaient ce fameux syndrome dit le syndrome de la peur, et d'ailleurs un syndrome qui a été bien étudié pour la première fois par un médecin toulousain, le docteur Paul Voisvenel. Donc vous avez peut-être entendu parler.
Non, pas encore, c'est la première fois.
Le docteur Paul Voisvenel. Et c'est lui d'ailleurs qui avait compris que l'importance de ces troubles mentaux, c'est ces jeunes militaires, et qui avait insisté auprès des généraux, et en particulier, il l'avait dit au général Pétain, qu'on ne devait pas laisser ces gens-là plus de 15 jours au front. Et qu'il fallait les retirer immédiatement, les remettre à l'arrière, de façon à ce qu'ils oublient un peu ces stress permanents
auxquels
ils étaient confrontés.
Parallèlement donc à ce choc, d'une part des blessés de guerre ou des perturbés, par la guerre évidemment, il se crée quand même des mouvements, en particulier le mouvement Dada, qui va être à Zurich, créé en 1916, donc on est pas loin. Je ne sais pas exactement à ce moment-là ce qu'il connaît.
À ce moment-là, encore, il ne connaît pas encore le mouvement Dada, qu'il connaîtra un peu plus tard. Mais ce qu'il faut dire, c'est ce passage donc dans ce centre neuropsychiatrique, parce que là, il va rencontrer le médecin-chef, le docteur Raoul Leroy, qui est un ancien assistant de Jean-Martin Charcot. Et c'est sur les recommandations de ce médecin, de Raoul Leroy, qu'il va, pour la première fois de sa vie, lire des livres de psychiatrie. En quelques semaines, il va lire le précis de psychiatrie d'Emmanuel Régis. Il va lire un livre fondamental écrit par un neuropsychiatre allemand, Émile Krappelin, La démence précoce. Et surtout, il va lire d'Emmanuel Régis et d'Angelo Hénard, qui sont deux psychiatres, deux neuropsychiatres. À l'époque encore, on n'avait pas séparé de façon radicale la neurologie de la psychiatrie. Donc on avait affaire à des neuropsychiatres. Le livre qui s'appelle La psychoanalyse des névroses et des psychoses. Et c'est là, c'est dans ce livre tout particulièrement que André Breton va découvrir Freud. Et d'emblée, il va refuser de voir dans la folie seulement un déficit mental. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire avec Breton. Il y aperçoit d'emblée dans la folie un pouvoir de création tout à fait original. Il est confronté à ces jeunes qui sont délirants et qui ont subi donc cet acharnement et de cette artillerie allemande pendant des jours et des jours et qui ont perdu un peu leur esprit et qui vont raconter des choses tout à fait extravagantes, tout à fait extraordinaires, qui vont étonner et André Breton, et qui va y voir là, au fond, une possible inspiration et poétique. Mais il faut dire que du même coup, en donnant à la folie cette dimension, entre guillemets, poétique, il va négliger, et il le fera ça toute sa vie, les complications mental de la folie, toute cette dégradation est inéluctable, il ne va pas en tenir compte, comme si ça n'existait pas.
Il va regarder
que
sous un angle,
l'angle
de la création et de la libération des normes.
Et il écrit, en 1917, il écrit à son ami, dont le docteur Frenkel, cette lettre que la censure n'a pas dû voir. Il écrit cette phrase extraordinaire: démence précoce, paranoïa, état crépusculaire, ô poésie allemande, Freud et Krappelin. Donc vous vous rendez compte de cette phrase, si la censure était tombée, nous sommes en pleine guerre là. Et il évoque la poésie allemande, celle de Freud et celle de Krappelin, qui ne sont pas ni l'un ni l'autre, d'ailleurs ni Freud ni Krappelin, qui ne sont pas des poètes, qui sont des psychiatres ou des neuropsychiatres.
Alors, d'ailleurs, il va même aller pour rencontrer Freud un peu plus tard.
Plus tard, ça c'est plus tard. Hein.
Restons peut-être sur ces années de, parce que il va être médecin en fin de compte, oui. 4 ans quoi.
Voilà, hein. Parce que à 1916, donc, il va être affecté pendant quelques semaines et ce seront les seules fois où il va être donc amené à aller sur le front comme brancardier. Avec, d'ailleurs, son ami Théodore Frankel. Mais de ce passage, dans la guerre la plus atroce qui soit, comme brancardier, il n'en parlera pratiquement jamais. Il refusera, tout au long de sa vie, d'évoquer ces moments.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Tout le monde s'est posé la question de la façon, de cette occultation, de ce déni qu'il a pu vivre au plus près, puisqu'il était brancardier sur le front de Verdun, hein, parce que c'est Saint-Dizier, c'est pas très loin de Verdun, on l'avait envoyé sur le front de Verdun.
Est-ce que c'est pas parce que, quelque part, la douleur et l'horreur de cette situation venaient ternir le côté poétique?
Peut-être. Hein, peut-être. Il n'a jamais voulu voir, oui, cette réalité. Il y a 1917, alors il va revenir à Paris. Là, il revient à Paris, il est infirmier et au Val-de-Grâce. Et c'est à ce moment-là qu'il va suivre les cours, d'ailleurs obligatoires, donc pour devenir médecin militaire auxiliaire. Et c'est là qu'il va rencontrer Doré Aragon, qui lui a eu au fond une destinée à peu près parallèle, et qui se retrouve en 1917, tous les deux, donc au Val-de-Grâce, pour préparer ce fameux examen. Et il va être, en même temps qu'il sera au Val-de-Grâce, toujours Paris, il va être aussi interne en neurologie, et auprès de...
De Babinski, non ?
De Charcot.
De Babinski, qui est l'élève de Charcot.
Auprès de Babinski, qui est l'élève. Donc toujours, vous voyez, ces relations qu'il a eues avec la psychiatrie, la neurologie, la neuropsychiatrie, c'est toujours, ce sont les seules...
C'est-à-dire qu'avec Charcot, il tombe, la lecture de Charcot et Babinski, donc son élève, va être au cœur de l'hystérie.
Hein, entre guillemets.
Absolument,
au cœur, et nous en reparlerons, et de l'hystérie. Voilà. Et il faut alors, à ce moment-là, je l'ai appris beaucoup plus tard au cours de mes recherches. En 1918, il va s'inscrire en quatrième année à la faculté de médecine de Nantes. Pourquoi en quatrième année? Parce qu'on avait considéré qu'il avait quitté la médecine en première année, mais qu'il avait pendant près de 4 ans, 5 ans été donc à la guerre, qu'il avait donc travaillé dans une ambiance très, très médicale.
Il avait une expérience.
Et donc, bien sûr, quand ses parents apprennent ça, ils sont tout à fait contents, bien évidemment, tout à fait contents de voir que leur fils, en fait, a décidé de continuer de poursuivre ses études. En 1919, il est nommé médecin auxiliaire, ça c'est et avec Aragon, tous les deux. Et il est démobilisé, donc, au mois de septembre. Il va revenir à Paris, et là, patatrac, il décide d'arrêter définitivement ses études.
Mais il ne le dit pas à ses parents.
Il ne le dit pas à ses parents, mais ses parents le sauront bientôt. Et démobilisé, c'est lui qui parle, j'ai versé sur le pavé de Paris, nous étions dans un état de disponibilité extrême, très peu disposé, même avec les nécessités de la vie. Ça, c'est sûr, c'est des conséquences, au fond, de cette guerre, quand même, pour lui et pour beaucoup d'autres, quoi. Hein.
Alors,
ses parents s'inquiètent, bien évidemment. Ses parents s'inquiètent, à telle enseigne que son père va contacter Paul Valéry, pour lui dire donc qu'il essaie de rendre raison à leur enfant, à leur fils, et qui le pousse donc à continuer ses études. Valéry reçoit donc André Breton, et puis ça il n'y a aucune possibilité, André Breton lui explique.
La mayonnaise prend pas.
Ah, mais non, c'est pas, donc, il invoque une difficulté d'attention à mettre sur le compte, au fond, de la guerre. Et à ce moment-là, alors, Paul Valéry, très gentiment, va s'occuper de lui. Il va d'abord le faire entrer chez Gallimard comme lecteur. Et c'est, en partie, André Breton qui va lire les épreuves corrigées de Marcel Proust, devant Marcel Proust, dont il gardera d'ailleurs, et en mémoire, une très belle image. Et c'est également Valéry qui va le faire entrer chez Jacques Doucet.
Alors Jacques Doucet, c'est quoi? C'est
un couturier.
Un couturier, un grand collectionneur.
Grand collectionneur surtout. Et d'ailleurs, c'est sur les conseils de Breton et d'Aragon, qui lui aussi a été donc, a travaillé donc chez Jacques Doucet, que Jacques Doucet a acheté les Demoiselles d'Avignon de Picasso, que personne ne voulait. Et c'est tous les deux qui ont dit, mais non, il faut acheter ce tableau, c'est un tableau qui a de l'avenir, et effectivement, un tableau qui a eu beaucoup d'avenir.
Beaucoup d'avenir, oui, ça c'est clair. Donc il va, bon, après, la vie de Breton va sortir un peu, hein, de la médecine, proprement dite, Mais on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure, surtout dans les expériences, hein, je dirais, dont je voudrais qu'on parle, bien sûr. Mais peut-être en deuxième partie. Là, ce que je voudrais dire simplement, c'est que bon, bien sûr, il va en 21, il va donc aller voir Freud.
Oui. Alors ça c'est une rencontre capitale en 1921. Il va voir Freud avec à ce moment-là avec Simone Kahn qui est sa première épouse. Il y va également avec Paul Éluard et avec Nusch, qui était la compagne de Paul Éluard. Il demande un rendez-vous donc à Freud qui donc accepte de les recevoir dans son cabinet là de Vienne dans la rue et dans la Bergstrasse. Et là, il en donne un compte rendu d'ailleurs qui paraîtra dans un numéro de la Révolution surréaliste. Un compte rendu qui n'est pas très 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 bien.
Et pas dithyrambique, on va dire.
Non, il trouve que c'est un quartier assez misérable.
Il trouve
que
les patients... un peu vieux. Voilà, alors, on est en 21. Hein. En 21 on n'est qu'en 21 pour Freud.
Que les patients de Freud sont un peu vulgaires. Et puis, de cette entrevue qu'il a avec Freud, il n'en retire pas grand-chose.
Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que finalement, il va rester toujours en relation un peu tendue avec Freud.
Ah, hein. toujours tendue.
Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, il le reconnaît par tout son mérite. Mais il va toujours le critiquer sur un point de détail. Il a oublié de citer le précurseur de l'interprétation des rêves, je crois.
Quelques années plus tard, il va envoyer un livre qu'il a écrit, Les Vases communicants, avec un envoi à Freud, qu'il remercie à posteriori de l'avoir reçu, mais surtout de l'avoir ouvert à la psychanalyse. Mais il a le malheur, dans cette lettre, de reprocher à Freud et de ne pas avoir cité ce que lui considère comme ceux qui ont inventé l'interprétation des rêves, en particulier leur interprétation sexuelle, et Koltek et Pichernet, et surtout de les avoir oubliés dans la bibliographie. Regardez Breton qui va lire un livre assez compliqué, la psychoanalyse, c'était l'interprétation des rêves, et il regarde la bibliographie et il s'aperçoit que ces deux de nos neuropsychiatres n'avaient pas été cités. À ce moment-là, Freud donc lui répond immédiatement en lui disant que effectivement lui aussi sait que ce sont ces deux psychiatres qui ont été les premiers à donner une interprétation sexuelle des rêves, qu'il ne les a pas oubliés. Mais le lendemain il envoie une deuxième lettre en disant j'ai vérifié effectivement dans la quatrième édition de mon livre sur l'interprétation des rêves, on a oublié. Il y a un oubli qui n'est pas dû à moi, mais qui dit à celui qui a pris ma succession, c'était le docteur Otto Rank, et donc c'est un oubli. Et c'est un oubli de la part de l'éditeur, mais pas de ma part. Donc,
alors, voilà. dans cette petite bataille, on voit cette attirance et cette répulsion.
Oui, voilà, oui,
attirance vers le monde inconscient, on va dire,
oui, voilà.
Qui va rechercher, et on va y venir, et non attirance vers la thérapeutique, qui est proposée par Freud.
Absolument. Voilà. C'est-à-dire que ils ne sont pas sur la même ligne. Pour Freud, la découverte de l'inconscient doit amener à un traitement de la cure psychanalytique, tandis que pour Breton, le traitement ne veut rien dire. Lui, il arrête simplement et à ce que peut apporter à la poésie la découverte de l'inconscient. Thank you.
France Culture, Matière à penser, René Friedman.
Donc, dans les grandes figures de la médecine et de la science, j'ai le plaisir d'aborder André Breton, mais en compagnie de son écrivain récent, Gilbert Guiraud, qui fait le lien entre les études médicales et la pratique médicale pendant 4-5 ans de Breton et son œuvre. Pourquoi est-ce qu'on fait le lien? Parce qu'il est attiré donc par la psychiatrie, par Freud, par l'inconscient, et que incontestablement, même si c'est pas linéaire, il va dans les manifestes surréalistes, je dirais, valoriser en tous les cas tout ce qui est hors norme, tout ce qui est imagination. Il a un goût démesuré pour la poésie, hein, et donc il va trouver là une source de poésie, et il va essayer de valoriser les égarements de l'esprit humain. Voilà. Et ils vont, d'ailleurs tout le groupe, cette intelligentsia qu'il connaît à ce moment-là, ils vont essayer de développer par l'écriture automatique, par le sommeil hypnotique, tout un tas de révélations justement du monde inconnu qui se trimballe dans notre cerveau, et qu'à l'époque on n'avait pas encore réussi à imager, hein, par les techniques modernes. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette période où d'ailleurs il y a quasiment des dangers, hein, parce que les gens commencent à, enfin dans le groupe quoi.
Absolument. C'est-à-dire que dès 1922, chez lui, 42 rue Fontaine, il va donc organiser des séances de sommeil provoquées. Alors, il faut dire qu'ils sont là, c'est tout le groupe, donc André Breton, Éluard, Desnos, Benjamin Perret, et quelquefois il y a Jacques Prévert, Mabille et bien d'autres. Ils vont donc un petit peu en amateur, hein. Donc, se soumettre à des séances d'hypnose et puis avoir un petit peu ce que cela donne. Et très vite, quand même, André Breton se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez dangereux. Et à une soirée, je pense que c'est Desnos qui poursuit avec un couteau de cuisine Paul Éluard, qu'il allait le tuer. À une autre séance, ils sont trois ou quatre à vouloir se pendre et au porte-manteau qu'il y a dans le couloir de cette maison. Donc rapidement, André Breton va s'apercevoir que là, il est allé un peu trop loin. Qu'il ne
et
sait
à Limbourg aussi, qui va jouer au chien, qui va manger la pâtée du chien.
Qui avoue à Breton qu'il l'a fait exprès pour savoir quelle allait être sa réaction. Donc, vous voyez que là, nous étions vraiment avec des amateurs, quand même, des gens qui étaient beaucoup plus préoccupés parce que ça pouvait donner comme expression inhabituelle. C'est ce qu'ils recherchaient.
Ceci étant, c'est vrai que beaucoup d'écrivains, hein, d'ailleurs, vont faire l'expérience des drogues, de différentes drogues. C'est oui. Pas tout à fait ça, mais je pense à la mescaline pour Michaud. Je pense à Huxley qui lui aussi. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Donc là, ils s'essayent vraiment de sortir la norme.
Hein. Ils veulent trouver une autre façon d'être poète. Il a lieu à ce titre de remarquer que pour ce qui est des surréalistes, ils se sont assez rarement quand même drogués. Et c'était pas dans les habitudes de ce groupe.
Alors, il y a aussi dans ce groupe, à un moment donné, cette volonté de faire une enquête sur la sexualité.
Oui.
Alors ça, c'est un peu particulier
ça
aussi.
Ça, c'est particulier. On voit
la sexualité, Freud et tout ça, enfin, oui. Les préoccupations de quelque chose qui n'était pas mis sur la table.
Mais avant, pour également compléter ce que l'on veut dire des relations qu'a entretenues donc Breton et le groupe avec la psychiatrie, et il y a donc en 1928, et Aragon et Breton vont signer une note sur le cinquantenaire de l'hystérie.
Et qu'est-ce qu'ils disent?
C'est Charcot, 1878, cinquantenaire. Et c'est là qu'ils disent tous les deux, nous, surréalistes, tenons à célébrer le cinquantenaire de l'hystérie, la plus grande découverte poétique de la fin du 19e siècle. Non pas un phénomène pathologique, mais un moyen suprême d'expression. C'est là où on voit encore à quel point ils se servent de l'hystérie, mais ils ne la voient pas comme la voyait Charcot ou comme la voyait sûrement à l'époque la plupart des neuropsychiatres. Ils la voient comme un moyen tout à fait particulier et d'expression poétique. Et c'est là où on voit comment les surréalistes se sont servis d'un certain nombre de choses très scientifiques, mais se sont servis.
Oui, il y a Il y a des excès, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque quand il écrit un peu plus tard que l'acte surréaliste consiste à prendre un revolver, à descendre dans la rue et à tirer sur la foule. Alors là, aujourd'hui, à la période que nous vivons, heureusement qu'on n'a pas encore entendu des Allah Akbar surréalistes, mais enfin, voilà, c'est quand même... Mais il va revenir un peu dessus, d'ailleurs, hein, parce qu'il est très critiqué.
Mais il y a pire. Dans Nadja, et dans un livre sur la démence précoce, il écrit « Je sais que si j'étais fou, je profiterais d'une rémission pour assassiner avec froideur un de ceux, le médecin de préférence, qui me tomberait sous la main. » Ça, c'est gravissime d'avoir écrit ça, quand même. Mmh. Et d'ailleurs, la plupart des psychiatres de cette époque-là ont porté plainte, que ce soit Janet, que ce soit Henri Claude, que ce soit même Gaëtan de Clérambault. Et ils ont demandé, donc, ils ont porté plainte pour diffamation. Et c'est vrai qu'actuellement, ça passerait pas, ça. Et quelqu'un qui, parce qu'on sait qu'il y a eu quand même Gilles de la Tourette, ce grand neuropsychiatre a été quand même un malade, lui a tiré dessus, et qu'à Toulouse, Gérard Marchand, lui aussi aliéniste, a été tué, assassiné par un patient. Donc, dire ça, c'était quand même un peu exagéré. Ceci dit, il ne faut pas, quand même, il faut savoir gré à Breton d'avoir mis le doigt quand même sur l'institution psychiatrique de l'époque, quand même.
C'est avant la psychiatrie hors des murs, quoi.
Voilà. Et nous sommes encore dans une psychiatrie de l'enfermement. Des hôpitaux psychiatriques qui ressemblent plus à des prisons qu'à des hôpitaux. Et ça, il faut donc le mettre sur le compte, au fond, de Breton et de l'équipe surréaliste qui ont bien mis ça en exergue.
Et même par rapport au traitement, je crois savoir que avec Antonin Artaud, il pensait à un moment donné que voilà qu'il s'en sortirait pas, et qu'il jamais il ne réécrirait parce qu'il était enfermé. On sait qu'Antonin Artaud a fait plusieurs séjours, et vous êtes bien placé pour savoir parce que Rodez, c'est pas loin de votre lieu d'origine, et Antonin Artaud va avoir une rémission.
Voilà, et ça, c'est ce que vous dites là est tout à fait intéressant. Et c'est vrai qu'aussi bien Breton que Jacques Lacan avaient prophétisé avant la Deuxième Guerre mondiale, avaient prophétisé que Artaud était mort pour la littérature. Or, après son séjour de plusieurs années à Rodez, où il a subi, entre guillemets, un traitement par électrochoc, eh bien, il a pu quand même écrire Van Gogh, un suicidé de la société, qui est un très grand livre d'Antonin Artaud, et un grand livre à plus d'un titre quand même. Et donc, cette dimension thérapeutique leur a totalement échappé. Encore maintenant, il y a encore des livres qui sont écrits contre cette approche thérapeutique et de la maladie mentale par les électrochocs. Je ne suis pas psychiatre, mais je crois que c'est une erreur de condamner de façon aussi radicale ce traitement qui est encore de mise d'ailleurs.
Pour les cas extrêmes. Là, c'est vrai, ça renvoie derrière d'autres émissions que nous avons faites. Il y a des développements en particulier sur des interventions in situ,
voilà,
qui visent à calmer ce genre
voilà,
de
les choses ont changé, mais on ne peut pas nier que ce séjour d'Antonin Artaud à Rodez l'a sauvé de la faim, car nous en reparlerons à propos de Nadja. Dans la plupart des hôpitaux psychiatriques, on est mort de faim, il n'y a pas si longtemps que ça, juste à la fin de son quinquennat, François Hollande a inauguré une plaque au Trocadéro où la France reconnaît que 45 000 malades mentaux sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale de faim et de soins. 45 000. Donc,
c'est clair qu'ils mettent le doigt sur cet enfermement, sur des conditions déplorables. Et en fait, avec cette folie, enfin cette démence plutôt, pour parler plus médical, il va être confronté toute sa vie, parce que, je veux dire, quand même, l'histoire de Nadja est quand même très lourde. Est-ce que vous pouvez en dire un mot?
Oui, alors l'histoire de Nadja, donc c'est un livre très important, un livre qu'il a écrit, je ne me souviens plus exactement à quel moment il a écrit ce livre, Nadja, ça devait être...
En 26, je crois, il a rencontré Léonard Delcourt, déjà. Oui. Et puis, il va rompre donc plus tard.
Voilà. Et alors, donc, il écrit ce livre, et ce que l'on sait, c'est que quelques semaines après la publication de ce livre, Nadja et Léona Delcourt va être hospitalisée dans un service de psychiatrie, et qu'elle y sera hospitalisée toute sa vie, et qu'elle y mourra en 1941. Alors, la question qui se pose, comment se fait-il qu'André Breton ne se soit pas aperçu de la souffrance mentale de cette femme? Et il s'en est peut-être aperçu parce qu'à un certain moment, il envoie une lettre à Theodor Frankel, son ami, médecin, psychiatre, en lui demandant de lui faire un certificat pour la faire hospitaliser. Et celui-ci, ne connaissant pas d'ailleurs, et Nadja, refuse. Et c'est quelques jours après qu'il l'ait quittée que elle va décompenser. Et à telle antenne, on s'est posé la question, est-ce que c'est pas la rencontre avec André Breton qui a été responsable de cette décompensation d'un statut psychique sûrement très très
ou
précaire.
La rupture aussi, la rupture.
Et la rupture peut-être, la rupture. Alors, à telle enseigne que 30 ans après, on réédite Nadja. Et à ce moment-là, Breton intervient auprès de l'éditeur pour faire supprimer cette fameuse nuit d'amour qu'il a eue avec Nadja à Saint-Germain-en-Laye. Et à ce moment-là, il écrit dans la préface, c'est lui qui parle, le récit de ma rencontre avec Nadja se calque sur celui d'une observation médicale neuropsychiatrique. Il fait de Nadja, au fond, simplement un récit d'une observation médicale de quelqu'un qui n'était pas bien dans sa tête et qui va décompenser très vite et qui va finir donc et le restant de sa vie dans un asile psychiatrique. C'est très curieux cette histoire de Nadja.
Est-ce qu'il était courageux, André Breton ?
Non, je pense que c'est, à mon avis, pour ce qui est de Nadja, il est passé à côté de la plaque. Je pense que, comme nous disions tout à l'heure, ce qu'il a lu sur Freud et ce qu'il a retenu de toutes ces conversations avec ses malades psychiatriques, ce n'est pas le côté maladif. Il ne s'est pas rendu compte de la dégradation que ces maladies mentales pouvaient provoquer. Il en est resté qu'à l'aspect poétique.
C'est drôle pour quelqu'un qui justement fait des études de
médecine. Oui, hein. Mais ces études avaient été très courtes, très incomplètes. Et je crois que lorsqu'il s'en est aperçu plus tard, lorsqu'il a vu ce qu'était devenu Nadja, je crois qu'il l'a regretté, et c'est pour ça qu'il a donc voulu supprimer cette nuit d'amour pour en rester donc à une observation strictement médicale. Et...
Mais il y a des discussions quand même assez intéressantes à cette période-là, sur ces volontés d'ouverture maximum, mais que l'on peut comprendre, mais qui des fois vont quand même un peu loin, puisque d'une part il y a une défense systématique de tous les grands criminels de l'époque, hein, qui sont là,
et d'autre part, il y a
des discussions sur, par exemple, la pédérastie.
On va reparler de ça, oui.
Ben allons-y, parce que l'émission court.
D'accord. Parce que, effectivement, ils ont pris la défense des sœurs Papin, de Violette Nozière, de Germaine, de Germaine Berthaud. Alors, pour ce qui est, alors, de cette fameuse enquête sur la sécurité, il faut aussi remarquer, bravo André Breton. Nous sommes en 1928, quand même. 1928. Et les grandes enquêtes sur la sexualité, c'est le rapport Kinsey, les rapports Kinsey 1948. Les fameux travaux de Masser et Johnson, de ce couple américain, 1957. Et, pour ce qui est de la France, la première enquête sur la sexualité des Français, c'est Pierre Simon, en 1972. Et là, nous sommes sur une enquête de la sexualité en 1928. C'est la première fois, au fond, que l'on ose faire une enquête sur la sexualité.
Alors, c'est une auto-enquête, hein, j'ai envie
Alors,
de dire.
C'est
Parce
bien
que
sûr.
Ces 40 participants, qui 40. Sont tous des intelligentsia et associés, ça va durer 4 ans, quand même. C'est-à-dire qu'ils se réunissent assez régulièrement. Voilà. Pour parler de plein de choses sur leur sexualité.
Sur leur sexualité.
Hein, sans parler de l'Oedipe, hein, d'ailleurs. Comme quoi.
Sans parler?
De l'Oedipe.
Non, sans parler de l'Oedipe. Et sans parler de Freud.
Alors. Ben,
très bizarrement.
C'est la même chose.
oui.
Si je puis dire.
Voilà. Et donc, avec une méthodologie qui n'est pas du tout une méthodologie scientifique, bien évidemment. Et, ce qu'il faut dire, c'est que cette enquête, au fond, de poètes qui se disent à longueur de jours, révolutionnaire. Eh bien, cette enquête montre qu'on n'a pas affaire à des révolutionnaires sur le plan
du sexe. Conservateur, hein.
Très conservateurs. Très conservateurs, très naïfs, très ignorants du sol, du sexe, de l'anatomie.
Et vraiment, tous les extras
absolument.
Ne sont pas réclamés.
Et alors, il y a comme ça...
Les grandes discussions, c'est sur la simultanéité de la jouissance entre l'homme et la femme.
Voilà. Alors ça, ça occupe des soirées entières. Dans quelle mesure l'homme se rend-il compte de la jouissance de la femme? Et là, ils ne sont pas du tout d'accord. Certains disent que c'est impossible de s'en rendre compte. D'autres sont à la recherche de signes objectifs qu'ils ne trouveront pas. Et, pour en revenir à la pédérastie, d'abord, c'est un terme qu'ils utilisent. Ils n'utilisent pas le terme homosexuel. Ils utilisent le terme pédérastie, ce qui est quand même, c'est un peu gênant à l'heure actuelle. Pédérastie, c'est l'amour des enfants. Bon. Mais là, il s'agissait donc de...
À la période de Mazneff, là, effectivement, on est en plein dedans.
Et
à la période, je veux dire, là, compte tenu du livre qui vient de sortir, il y a eu des discussions autour de ça. Et là, on voit que, il y avait une certaine porosité, on va dire.
Oui, d'abord, Breton, j'accuse, c'est lui qui parle, j'accuse les pédérastes de proposer à la tolérance humaine un déficit mental et moral qui tend à s'ériger en système et à paralyser toutes les entreprises que je respecte. Donc, Breton, il n'aime pas du tout l'homosexualité, et il le dit. Et il n'aime pas du tout les homosexuels, à quelques exceptions près. C'est lui qui parle, là encore. Et donc, ça va être donc une opposition dure avec, bien sûr, Aragon. Quand on pense la même façon, la même question à Aragon, que pensez-vous de la pédérastie? Il répond, il s'agit d'une habitude sexuelle, comme les autres habitudes sexuelles. Et ceci ne comporte de ma part aucune condamnation morale. Et Breton réplique, tout de suite, je m'oppose absolument. Je veux bien faire acte d'obscurantisme en pareil domaine. Non, vous voyez, là, il est assez tranchant et on ne parlera plus devant Breton d'homosexualité, de pédérastie.
Alors, on peut pas tout voir, tout lire, tout entendre. Tout lire, oui, on peut regarder André Breton, médecin malgré lui, publié chez L'Harmattan, qui est votre Gilbert Guiraud, pour nos auditeurs qui sont intéressés maintenant qu'ils vous ont entendu avec votre accent du midi. Ils vont vouloir le lire et ils vont bien faire, parce que c'est un éclairage. Hein, je dirais du rôle de son côtoiement avec la psychiatrie, d'essayer de tirer les fils, de voir comment ce côtoiement du médecin psychiatre a pu retentir sur l'œuvre, sur les positions du mouvement surréaliste, pourquoi pas. Voilà un petit peu la thématique. Je vous envoie donc à ce livre sans hésiter. Voilà, cette émission est maintenant terminée grâce à Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Danny Journaud, Pierre Monteil et Julie Voichet. Nous avons pu la réaliser et surtout en présence de Gilbert Guiraud qui a écrit donc ce livre « André Breton, médecin malgré lui ». Vous pourrez retrouver sur le site internet de franceculture.fr, l'écouter autant que vous voulez.
Matière à penser, René Friedman.